Salut, tu écoutes Match Après Match.
C'est votre rendez-vous du dimanche soir après la Super League. C'est ici qu'on débriefe les matchs, qu'on parle de l'actu du foot en Suisse et dans le monde. On est en direct sur Bluezoom, on est en direct sur notre page YouTube. C'est ici que vous pouvez nous poser vos questions ou interagir avec nous. On est aussi évidemment sur toutes les plateformes de podcast à partir de tous les lundis matins. C'est un plaisir de vous retrouver après la pause des équipes nationales. Un plaisir aussi de retrouver mon Vincent, mon Thibert qui sont avec moi autour de la table. Salut les gars.
Salut. Salut.
Et un honneur d'accueillir El Crack et le plus suisse. Des Uruguayens, le plus bel accent, le plus grand buveur de maté, le plus classeux, le plus beau gosse. Merci Mati Vitkaviez d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Bienvenue à toi. On va quand même leur expliquer hein, à Thibert, à Vincent et aussi à nos téléspectateurs. Quand je t'ai invité, je t'ai écrit le 14 février, je suis allé vérifier, t'étais certainement pas en Suisse. Rappelle-nous où t'étais.
J'étais en Uruguay, je pensais que tu m'as appelé parce que c'était le jour des amoureux.
Ça aurait pu être ça. En Amérique du Sud, c'est pas le cas, hein, je crois. C'est
écoute, pour moi, c'est tous les jours.
C'est bon.
Mais ouais, j'étais en Uruguay, je suis allé visiter la famille. Et puis, j'étais aussi avec ma famille. Et puis, quand tu m'appelles, ça m'a fait plaisir. Je t'ai tout de suite dit, bien sûr, avec plaisir.
Ouais.
Et puis je t'ai dit, est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose d'Uruguay qui t'a fait plaisir?
Exact. Bon, la vérité, c'est que c'est moi qui lui ai demandé. Sérieux, je lui ai demandé, je vous jure, je lui ai demandé de me ramener un truc d'Uruguay. Je suis un grand, grand fan de Federico Valverde. Et puis on verra après qu'effectivement, tu m'as ramené le maillot. Thibert, tu es déjà allé en Uruguay avec Mathieu, je crois, c'est juste?
Ouais, plusieurs fois même.
Plusieurs fois.
C'est un peu ma deuxième patrie.
Ouais.
Ouais.
Et sous le wash,
Sous le wash, claro.
De verdad? Tu hablas espagnol, certes?
Un poquito, un poquito.
C'est beau.
Non, mais oui, l'Uruguay, on y a été la première fois en 2007 pour les fêtes de Noël et c'est l'été là-bas en décembre, donc on a bien profité parce que c'était la pause en fait à l'époque quand on jouait ensemble. Ouais. Donc on est souvent partis ensemble pendant ces pauses et c'est vrai que c'est un pays que j'affectionne comme l'Amérique latine en général.
Tu es d'ailleurs allé au Chili il n'y a pas très très longtemps, je crois.
Absolument.
Tu es revenu avec quelques photos, c'est un pays qui t'a plu?
Ouais, extraordinaire. Bon, après, Santiago en elle-même, la ville, culturellement, il y a 2-3 trucs à voir, mais c'est pas la folie, c'est pas incroyable, quoi. Mais par contre, quand tu vas au nord, là, sur les photos qu'on voit, c'est exceptionnel, le désert d'Atacama, des paysages que j'avais jamais vus de ma vie, où tu montes à 4500 mètres d'altitude, tu vois des renards, tu vois des animaux, des alpagas, enfin, tu vois des trucs que tu vois jamais de ta vie, et ça, c'était vraiment... Non, en Suisse, non. Ouais. Et voilà, et c'était une expérience aussi de vie, de voir ces gens qui habitent en très haute altitude aussi à San Pedro, 2500 mètres. Génial, génial. Ouais.
L'Amérique du Sud, moi j'y suis allé aussi. Hein. Ce qu'on aime là-bas, c'est que les gens, ils te donnent vraiment, ils ont très peu et ils te donnent beaucoup. Quoi. C'est surtout en fait sur la table, quoi, l'assiette, le toit, ils te donnent vraiment... Tout ce qu'ils ont. En tout cas, moi, je suis allé en Colombie plusieurs fois. La Colombie, c'est très beau, c'est très varié. Tu peux avoir des montagnes, tu peux avoir la mer, tu as les tortues de mer qui viennent te voir. Tu manges extrêmement bien. Et puis, j'avais même d'ailleurs, en vérité, j'avais croisé un de vos anciens coéquipiers, Fabri Castro, à Cali.
Ah, bah oui.
J'étais allé le voir. D'ailleurs, tu es toujours en contact avec lui?
Oui, moi, toujours en contact. Et d'ailleurs, il m'a envoyé son maillot l'autre jour.
Ouais.
Les maillots avec qui il a été champion la saison passée.
Bucaramanga.
Voilà. Ouais. Et puis je suis souvent en contact avec lui. Là, il va jouer la Copa Libertadores en plus. Il m'a dit qu'il allait jouer contre Colo-Colo, Racing. Et puis c'est magnifique, quoi. Les stades pleins, l'ambiance est incroyable.
Ouais. Fabri Castro, qui s'était bien intégré en Suisse. Ensuite, il était parti en Grèce. Puis il est retourné en Colombie d'abord à Cali.
National.
Ouais. Et puis ensuite à Bucaramanga. Vincent, toi, on a envie de savoir, évidemment.
Marre déjà.
T'es pas allé en Amérique
au nord,
du Sud, un tout petit peu plus au nord.
J'ai fait l'Amérique centrale, ouais, c'était très sympa. Je suis allé que au Mexique et j'ai fait le parcours classique de tous les gens qui vont au Mexique, c'est-à-dire Yucatan, là, c'est Chichen Itza, j'ai vu Coba, Tulum, quelques ruines et tout. Et le truc cool, c'est que c'était en mois de novembre et c'était la Coupe du Monde à ce moment-là. Et moi, j'ai vécu une Coupe du Monde en plein été, en fait, alors que les gens étaient en Suisse dans le froid. Et nous, on a fait toutes les terrasses, on a regardé les matchs avec les Mexicains et tout, c'était fou.
Il y a une question déjà pour toi, Mati. Sapin 2000, qu'on remercie évidemment, supporter de National ou de Peñarol, et plutôt, j'arrive juste pas à voir, Pilsen ou Patricia?
Ah, il connaît l'Uruguay, ouais.
Question.
Alors moi, je suis pour National. D'ailleurs, avant de venir en Suisse, moi, je jouais à National. Donc du coup, moi, c'est National toujours. Peñarol. D'ailleurs, il y avait un petit truc quand j'ai signé à Young Boys. En fait, Young Boys, c'est les couleurs de Peñarol.
Mm.
Donc c'est jaune et noir. Et quand c'était pas facile de mettre au début cette couleur-là parce que voilà, moi, c'est rouge et blanc et bleu. Et puis, je suis plus... Écoute, Pilsen et Patricia, c'est des bières. C'est les bières d'Uruguay. Et ouais. Puis les deux, elles sont super bonnes.
Ouais, les deux, tu choisis pas. Ouais, il y a le petit emoji là, de Sapin 2000, il fait tout ça très bien. Il y a le petit emoji de la
bière. Ouais, mais Patricia. Allez, on va dire Patricia.
Patricia, ouais. Top. Bon. C'est bon, on a fini la petite parenthèse voyage, agence de voyage, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. Dites-nous hein, vos bons plans de vacances ou bien vos souvenirs de vacances. Ça peut toujours nous intéresser. Allez, on passe au programme. On va évidemment revenir sur le match nul entre Sion et Yverdon hier soir à Tourbillon. On parlera aussi de la première du LS sans Alvin Sanchez, une première complètement ratée contre Lucerne. Mais qui dit Vitkaviez et Thibert Pont avec nous dit forcément Servette. On commence par ça. Si vous êtes d'accord, les gars, une victoire de Servette hier soir à Lugano, avec la manière, avec la maîtrise, avec une telle sérénité, et surtout maintenant Lugano à 6 points. C'était vraiment une très, très belle victoire, pas forcément sur le plan du jeu, mais une victoire tellement, tellement, tellement bien acquise.
Alors déjà, Lugano, qui est notre bête noire, c'est dur d'aller gagner à Lugano. Et surtout quand tu as la pression, parce que tu es premier du championnat, donc tu vois là-bas quand même... avec la pression, et puis voilà, première occasion, premier but, et 1-0, tu gagnes les matchs 2-0 à Lugano, avec la manière, comme tu dis, aujourd'hui, Servette, on peut dire qu'ils sont la chance du champion.
Oula,
Ah oui, non mais vraiment, il faut y aller, parce qu'il y a aujourd'hui, Servette est premier, Servette gagne, l'année passée, Servette avait la pression, quand à un moment donné, ils sont arrivés en première place, malheureusement, ils se sont écroulés. Je pense qu'avoir gagné la Coupe Suisse leur a donné une confiance énorme. Et puis aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'être premiers. Et puis voilà, les résultats suivent.
Mmh. Vincent, hier, il y a cette victoire qui a été acquise. Tu étais en présentation hier soir, mmh. Tu l'as même dit toi-même. Je crois qu'il y a 3 tirs cadrés, 2 buts. L'efficacité aussi.
Oui, parce que Mathieu, il a dit une occasion, un but. Tu as oublié de dire une deuxième occasion, un deuxième but. Hein, ouais. C'est globalement le match de Servette. Efficacité maximale. Moi, ce qui me fait changer un peu d'avis, parce que je rappellerai à tous les supporters servettiens qui nous écoutent régulièrement que j'étais un peu de ceux qui étaient dubitatifs par rapport à ce que produisait Servette sur le terrain et ce que montrait Servette et les résultats. C'est-à-dire que tu avais une défaite en 2025, la défaite contre Yverdon, mais très souvent, des faits de jeu qui tournaient en leur faveur, des matchs qui n'étaient pas très maîtrisés ou pas maîtrisés. Hier, je trouve que tu as un Servette qui est quand même beaucoup plus serein dans la gestion de son match. C'est pas une immense qualité de jeu, mais c'est une équipe qui est sereine. Tu sens que c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience. Faut le reconnaître, c'est aussi le 11 de base le plus âgé en moyenne de Super League, hein, mais c'est pas pour rien. Sur le terrain, t'as des mecs qui ont de l'expérience. Et après, t'as besoin quand même de Crivelli-là, d'un Crivelli qui est capable de mettre ces buts-là. C'est pas toujours été le cas, hein, malgré tous les efforts qu'il peut mettre sur le terrain. Il marque pas toujours des buts comme ça. Il était compliqué à reprendre, hein, ce ballon de Stevanovic. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un Servette qui est un peu plus séduisant à sa manière dans ce match contre Lugano qu'ils l'ont été contre Guetze par exemple ou ces matchs-là où ça s'est joué à très peu de choses.
Mais tu parles de Crivelli, il y a aussi quand même les retours de Séverin, celui de Doulin aussi qui amène une certaine c'est pas tout à coup le Barça quoi, mais il y a des bons pieds quoi avec ces retours-là.
Après ils ont aussi fait une série de 5 victoires sans eux hein, donc ils tournent très bien aussi sans eux. Moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit hein, jusqu'à maintenant, c'est un Servette qui a plus spécialement la maîtrise du jeu ou le jeu tel qu'on lui connaissait, d'avoir la mainmise vraiment technique sur son adversaire. Par contre, c'est une organisation sans faille, excepté le match contre Yverdon, où là, il y a eu, je pense, d'autres paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Première fois qu'ils étaient leaders, ils devaient défendre cette place de leader, il y avait l'occasion de faire le trou. Peut-être que ça a un petit peu joué, les 135 ans et tout ce qui va autour, qui ont rendu ce match un peu extraordinaire, alors que s'il s'agissait d'un match ordinaire contre le 10e du classement qu'il fallait gagner. Tu passes à côté.
Il y a un super Yverdon aussi.
Un super Yverdon, tu as raison de le souligner. Donc tu passes à côté, par contre, la réaction est magnifique. Surtout que tu as ces 2 semaines d'écart qu'on n'aime pas. J'ai croisé Rouillé l'autre jour au centre commercial derrière. Et il m'a dit, on n'aime pas. Nous non plus, on n'aimait pas ces 2 semaines parce que tu fais le vieux match amical, tu penses aussi un petit peu à la blessure. C'est pas une semaine logique dans l'approche où tu as la compétition au bout. Ouais. Donc ça, c'est un peu un autre paramètre à gérer. Ils l'ont très, très bien fait.
Il y a aussi Joël Mal hein, qui te sort les arrêts qui doit sortir. Enfin, on a vraiment l'impression qu'hier soir, ils auraient pu jouer... 2 heures de plus et ça aurait vraiment rien changé parce que j'ai l'impression que tout tout fonctionnait. Ils ont joué comme si tout avait été prévu et écrit à l'avance.
Bon, il y a une grosse case Lugano au début. Ouais. T'as raison de relever l'arrêt de mal, parce qu'au final, si Lugano met ce but-là, ils prennent de la confiance aussi. Lugano, c'est pas une équipe en grande confiance ces temps, faut le rappeler. Hein. Ils sont en train de dégringoler au classement, ils n'arrivent pas à enchaîner, ils ont été éliminés en Coupe de Suisse, en Coupe d'Europe. T'as ces défaites successives en championnat qui les font tomber. Donc c'est une équipe qu'il fallait plutôt... il fallait enfoncer la tête sous l'eau de ce Lugano-là pour Servette, et ils l'ont fait hier.
Mais Servette est très fort à l'extérieur, c'est 25 points quand même obtenus à l'extérieur, et malgré tout, il faut quand même aller jouer à Lugano, même si Lugano est un petit peu la tête à l'envers. C'est quand même
Servette a gagné en expérience depuis quelques années déjà. Et puis aujourd'hui, Servette va à Lugano après une défaite contre Yverdon, et puis arrive à gagner ce match. Mm-hmm.
Et pour une fois, on a un leader de Super League qui gagne un match. Oui. Parce que ça n'est pas souvent arrivé cette saison, je peux vous dire.
Et comme par hasard, derrière, ça gagne aussi.
Heureusement,
pour le suspense, c'est génial.
Ça reste hyper intense en termes de suspense. Tiber, un mot peut-être sur Crivelli, troisième but en trois matchs. Il enchaîne, il n'y a que Kutesa qui a réussi à faire ça cette saison. C'était en automne, je crois. Là aussi, Vincent le disait, ce but, il n'est pas facile à mettre. Et puis si tout à coup, tu retrouves encore un Crivelli qui marque avec continuité, autoroute, quoi.
C'est la seule chose qu'on lui reproche, au final, à cet attaquant. Moi, j'adore ce joueur, hyper généreux dans l'effort, hyper présent. On a vu Noé Dussène qui était sur ce plateau, qui dit, Crivelli, c'est un enfer à jouer, parce qu'il est tout le temps sur toi, il grimpe dessus. Très, très compliqué à défendre. Et on lui demande de marquer des buts. Et là, trois buts en trois matchs, c'est super. Et lui, peut-être que ça lui fera aussi le déclic qui lui manquait lors de ce passage-là à Servette pour vraiment prendre une dimension supplémentaire.
Surtout quand t'es attaquant, t'as besoin de marquer des buts. Et puis là, ça fait trois matchs, trois buts. Je pense que Servette avait besoin justement d'avoir un attaquant qui marque des buts. Et puis après, quand t'as Stevanovic qui régale, parce que Stevanovic, il a été critiqué et tout ça, mais il est toujours là, quoi. Il est toujours là à mettre des passes, des buts.
Est-ce que... Parce que ça me fait vraiment penser à un truc. Moi, je ne me rappelle plus pourquoi on a critiqué Stevanovic. Enfin,
qu'il était trop vieux et il avançait plus.
C'est incroyable.
Qui l'a critiqué?
Moi, j'ai entendu plein de critiques.
De vrai. Moi aussi, j'ai entendu des critiques.
Non, mais il faut pas oublier le début de saison compliqué de Stevanovic. Pour de vrai, moi, je trouve qu'il fait un début de saison compliqué parce qu'après la préparation, tu sens que physiquement, il arrive plus autant. Mais il lui a fallu...
Il a été blessé aussi.
Ouais, c'est ça. Il lui a fallu un certain temps pour retrouver le niveau qu'il a maintenant. Et il a... Faut pas oublier que c'est un mec qui avait de l'impact à chaque match. Et là, tu peux plus lui demander maintenant d'avoir de l'impact à chaque match. C'est tous les deux matchs.
Mais là, c'est incroyable.
Maintenant, c'est bon. Il est à 9 buts, 9 assists.
Ouais. Il est incroyable.
Bien sûr, il est sur 18 buts cette saison pour un gars qui vit une saison un peu compliquée. Ouais. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que c'était une saison plus compliquée que lui.
Moi, c'était une vraie question. Hein. Je me souvenais pas ce qu'on lui reprochait. Ouais. Donc, merci Vincent de me l'avoir rappelé. Je me souviens avoir entendu ou lu des critiques, mais je me rappelais plus du tout.
Bon, Stevanovic allait moins bien aussi. Servette allait moins bien.
Moins bien, ouais. Après, il y a eu aussi un moment où Konya...
Il y a Konya qui a manqué aussi, énormément de matchs. Et là, Konya, c'est celui-là qui fait quand même... qui relie la défense à l'attaque. Ouais. Et puis après, t'as Stanovic qui fait les assists.
Peut-être maintenant, en plus, on retrouve un effectif au complet, quoi. On a vraiment une équipe avec un banc et la possibilité pour Thomas Eberli de...
Hier, beaucoup de blessés, attention. Hein. Guimeno, Fonmos, Antunes, Frick est toujours blessé. Il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient importants, qui auraient pu être importants cette saison, qui manquent encore.
Et Théo Magnin aussi.
Vont arriver quand même, à mon avis, là, dans le
Ouais, mais ça final. Force aussi un peu Eberli à mettre en avant certains jeunes joueurs qu'on a beaucoup moins vus depuis le début de la saison. Mm-hmm. Varela était absent pour raison familiale hier, mais un Varela qu'on voit un peu plus, un Ouattara qui a joué, qui a marqué pour son premier but en Super League, et il avait marqué son premier but avec l'M21 juste avant. Donc il y a quelques joueurs qui vont pouvoir se mettre aussi en évidence, c'est plutôt une bonne chose.
Surtout avec la calendrier, là, tu joues tout de suite mardi un match contre Young Boys à la maison, qui est super important, donc là tu as intérêt à bien récupérer entre-temps.
Ouais. Mati, tu as parlé de leader, de titre et tout ça. Hier soir, il y a Nicolas Ménech qui était au match au Cornaredo qui a parlé avec Johan Severin. Je vous propose d'écouter les propos de Johan Severin et puis ensuite on parlera notamment de la rencontre face à IB.
Servette, taille patron, taille de champion aujourd'hui à Lugano. Taille de champion, je ne sais pas. En tout cas, on a envoyé un message. Je pense que ce soir, on a fait une belle prestation. On a été très sérieux, très compact, solidaire. On a montré beaucoup de personnalité. On a eu du mal en entame de match. Mais je pense que sur la deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu énormément de situations. Et on a eu un grand état d'esprit ce soir.
On a l'impression que vous avez emmené cette rencontre sur ce que vous aviez prévu.
Oui, on savait qu'on allait être parfois en difficulté. Lugano est une équipe qui joue très bien au football. On l'a vu en début de match, il fallait laisser passer l'orage, comme on dit. Et puis on a été ultra efficace également.
Est-ce que c'est un match référence et peut-être un message que Masservette, c'est peut-être le principal candidat désormais pour le titre ?
Principal candidat, je ne sais pas. En tout cas, on est sur la bonne route. Je pense que venir gagner ici, c'est jamais facile. On a montré ce soir en plus avec un clean sheet. Donc maintenant, il va falloir bien récupérer. On a un long retour qui nous attend à Genève et puis on enchaîne dès mardi contre IB.
Et on en parle de cette rencontre face à IB. Ça peut être l'un des tournants de cette fin de saison régulière, comme on peut l'appeler maintenant. Tu bats IB, tu tapes peut-être un deuxième point sur la table. Par contre, si tu perds... Là, on se retrouve avec
les Bernois à deux points.
Ouais, tu as Bâle aussi qui joue à la maison. Oui. Je sais plus contre qui, mais un match Guetze, je crois.
Bâle-Guetze.
Donc non, c'est un vrai tournant. Mais comme je pensais moi-même que Yverdon était un vrai tournant et Servette l'a pas bien négocié, on arrive dans le money time. De toute façon, là, chaque match va être important et d'autant plus qu'après tu as le top 6 qui arrive. Le Championship Group.
Voilà, et Relegation Group.
Voilà.
Avec l'accent.
Non, on y arrive. Là, c'est vraiment des. Mais là, effectivement, contre IB, un IB qui est en pleine confiance, il va falloir vraiment faire un très grand match pour ça.
Sans trop de public où il n'y a pas.
Ouais.
Il
y a une suspension pour les supporters suite aux incidents de Lausanne.
Ouais.
Mais je ne sais pas quelles sont les limitations exactes à la Pride qu'on aura mardi.
Ça ne tombe pas le bon match. Hein.
Non, c'est pas vraiment le bon match.
Effectivement. Il y a Olivier Schwarz qui dit le titre va se jouer entre Genève, Berne et Bâle, je pense, donc entre Servette, Berne et Bâle. Et puis, est-ce que vous pensez que Servette est un candidat sérieux cette fois ? Bon, Mathieu a déjà répondu, Tiber, assez rapidement.
Quand t'es premier avec deux points d'avance, on a quoi, 9 matchs de la fin, je crois. Oui, t'es un candidat très sérieux même.
Ouais, Rock Snake nous dit 6000 spectateurs pour cette rencontre.
Voilà.
Je vous parle un tout petit peu de vous quand même les gars, parce que vous avez joué ensemble à Carouge, à Servette, aussi. Vous avez aussi bien déconné, avec, vos vidéos mythiques là au stade où vous commentiez les matchs du Servette FC. Alors moi, ce qui m'intéresse les gars, c'est comment vous avez mis cette idée, à quel moment il y en a un des deux qui s'est dit « Bon tiens, je vais te proposer ça » puis que l'autre dit encore « Ah ouais, non mais c'est une monstre bonne idée, on va le faire ».
Ah mais...
Racontez-nous ça.
Mais qui nous a proposé, c'est la brillantissime équipe de com' du Servette.
Ok.
Qui a tout le temps des idées un petit peu au-delà de ce qui se fait habituellement et qui sont tout le temps dans le décalage aussi. Et là, c'était pendant le Covid, donc les stades étaient vides, hein. Et puis on s'est dit que c'était une super idée. Nous, on adore être ensemble. Et c'est vrai que de commenter un match, de faire vivre le match sans que les gens aient l'image, c'est pas si simple. Et on s'est essayé à cet exercice.
Bah déjà, nous, on avait la chance d'y aller et voir le match en direct. Alors qu'en fait, bah personne pouvait aller voir. Et du coup, bah ça c'était super cool. Et puis en fait, transmettre aux gens les images qu'on voyait avec à notre façon. Bah, c'était une super expérience.
Parce qu'on a vraiment joué le jeu aussi, on l'a vu sur les images, on mettait les perruques quand il y avait un but, les masques.
Ouais, on a bien rigolé.
Vous savez quoi ? Vous avez quand même sorti une petite compilation de sur 1 minute 30.
Ah ouais.
On pose la compile, on se fait plaisir. Allez, c'est parti.
Oh là là.
Ça c'est charmé ça.
On a rien perdu. Là, je suis chaud, là. Dimitri, qui a la perte
des... J'ai oublié de préciser qu'Alain Gaillard est suspendu.
Alain Gaillard.
Nous, là. Salut, Alain. Allez, Servette. Non! Non! Golemic, just do it, Rich!
j'ai pas vu qui c'est qui a fait la passe, Nemi.
Cantare, oh, 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 la samba. Nemi, Nemi, no, di blu.
Mitcha, Mitcha qui arrive face au gardien et qui fait le bon choix.
Mitcha en feu. Cumbia, cumbia.
Mais là, j'arrive plus à parler. Là, j'arrive plus à parler,
tu. Est-ce que vous rire. L'entendez ou pas? Est-ce que vous l'entendez ou pas? Normalement, vous devriez l'entendre un petit peu de façon étouffée. Mais...
J'arrive plus à parler, j'ai plus à respirer et je vois presque rien. Merci à tous.
À bientôt.
À bientôt. Ciao, 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 ciao.
Voilà pour cette compilation. Vous pouvez aller vous faire plaisir sur YouTube. Il y en a d'autres. Allez, franchement, c'est vraiment très très sympa.
Après la perruque André Agassi, t'as vu trouvé où?
Ouais, c'est
alors ouais, André Agassi pour toi. Moi, j'avais l'autre question, mais vas-y. Déjà, la perruque André Agassi, elle existe toujours? Elle est toujours quelque part?
Ouais, elle doit être dans mon bureau. À côté, ouais.
Ah ouais. Le Power Rangers. De où il sort, quoi? C'est ça, quoi. C'est aussi lui.
C'est moi qui ai ramené tout. On a les goodies.
C'est Steve qui avait le matériel.
Du village du soir. On a tous les goodies pour les soirées à thème, tu vois, années 90. Puis années 90, Power Rangers, ouais. J'avais un vieux casque qui traînait, je l'ai pris.
Il y a une masque des Johnny Hallyday aussi.
Johnny Hallyday, c'est vrai, je voulais pas retrouver celui-là.
Ouais, ouais. Non, mais alors.
Le masque de Johnny, on va le ressortir.
Allez-y, franchement, allez-y. Hein, faites-vous plaisir. Il y a vraiment de quoi faire. On reprend un petit peu notre sérieux. On va parler un petit peu de Lausanne-Lucerne. Aujourd'hui, c'était le retour du football à la Tuilière. Une tuilière pratiquement vide. C'était le premier match du Lausanne Sport sans Alvin Sanchez, Stéphane Amoroso et Kevin Fickenscher nous proposent le débrief de cette défaite 4-1 du Lausanne Sport.
Oui, aujourd'hui, c'était un match sans. Il n'y a pas d'autre mot pour le Lausanne Sport. Un match à oublier, Kevin. Une défaite sans appel 4-1 face à Lucerne qui n'a pas eu à forcer son talent. Vraiment, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire pour Lausanne. Il n'y a rien qui allait dans son sens.
Non, et aujourd'hui pour Lausanne, j'ai aucun point positif à ressortir de ce match. C'est vrai qu'ils sont passés complètement à côté. Étonnant, surtout quand tu sais que c'est un match capital, que tu joues ce top 6 encore et tu es à domicile, certes, dans une atmosphère particulière quand même, ça il faut quand même le relever. Mais c'est étrange, ça pose des questions, ça fait douter. On sait que des joueurs ont eu leur chance de se mettre en avant par la blessure notamment je pense d'Alvin Sanchez et voilà, il n'y a tout simplement rien à retirer aujourd'hui du côté du LS.
Mais comment on explique ce non-match, surtout en première mi-temps? C'est quoi? C'est l'ambiance, tu l'as dit, parce que le Cop Sud était fermé, il n'y avait pas de supporters lucernois non plus pour des raisons de sécurité. Est-ce que la blessure d'Alvin Sanchez, elle trotte encore une semaine, plus d'une semaine après dans les têtes? Est-ce que c'était un défaut physique, tactique? Comment on peut expliquer ça?
Alors pour moi, pour avoir vécu ces périodes Covid avec peu de spectateurs, voire quasiment pas de spectateurs, C'est pas évident parce qu'il faut se mettre dedans. T'as pas cette adrénaline un petit peu externe que peut apporter les supporters et tout ça. Donc c'est pas évident et il faut pas tomber dans cette phase de match amical un peu sans enjeu comme ça. Donc switcher un petit peu dans sa tête là, c'est pas évident. Mais ça doit pas être une excuse. Aujourd'hui, certes, il y avait pas Alvin Sanchez, mais ça doit pas être une excuse non plus. Et
on voulait voir des joueurs prendre plus de responsabilités. Est-ce que tu les as vus aujourd'hui?
Non, je ne les ai pas vus et au contraire, j'ai été déçu de leur part. Aujourd'hui, une défense, il faut le dire, catastrophique du côté du Lausanne. J'ai vu un Lucerne pas extraordinaire, mais qui a fait simple les choses, qui a mis des ballons dans la défense, dans le dos de la défense lausannoise et ça a suffi. Ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. Et offensivement, du côté du Lausanne, il y a Oku qui a essayé un petit peu par sa vitesse de créer deux, trois petites choses, mais à la fin, il n'y a rien qui est ressorti de ça. Et voilà, Oviedo a passé complètement à travers de sa première mi-temps.
Finalement, qui n'est pas passé à côté
non,
de son match?
C'est ça. Aujourd'hui, peut-être on a Letizia qui a fait quand même un ou deux arrêts importants parce que sinon le score était encore plus lourd. Mais au-delà de ça, je me fais un petit peu de soucis par rapport à ça. Et ce qui me dérange, c'est l'attitude aujourd'hui de Lausanne qui n'a pas été bonne. Je n'ai pas vu de leader qui a essayé de se révolter. Des fois, il y a des jours sans. Des fois, ça arrive que tu ne sois pas bon sur le terrain. Ça arrive que les choses ne tournent pas très bien dans ton sens. Mais il faut essayer de passer au-delà. Il faut essayer de se révolter. Il faut essayer de donner de la voix, d'encourager son coéquipier à côté pour leur donner un peu de la force. Et aujourd'hui, tout ça, je ne l'ai pas vu et c'est ce qui m'inquiète un petit peu du côté de Lausanne aujourd'hui.
Ludovic Magnin a essayé de faire des choix forts en faisant 4 changements à la mi-temps, mais là encore, comme tu le dis, on n'a pas vu vraiment l'implication de ces changements sur le terrain.
Non, et j'ai trouvé courageux de la part de Ludovic Magnin de faire ces changements et ça a été intéressant sur le papier, mais tu l'as dit, ça n'a rien donné sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que Ludo Magnin pouvait faire ce qu'il voulait. C'était compliqué de faire autre chose, de montrer autre chose. Et voilà, quand tu as cette occasion de revenir à 3-1, déjà, tu n'es pas très bon, mais tu reviens à 3-1, tu te dis, OK, il reste encore du temps. C'est possible.
Surtout Plucerne ne montrait plus grand-chose à ce moment-là.
Ouais. À ce moment-là, ne jouait plus du tout au foot. Et tu te dis, bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais au final... Même ça, ça n'a pas réussi à déclencher une petite étincelle, ça n'a pas réussi à redonner un petit coup de fouet à cette équipe de Lausanne. Et on l'a vu sur le terrain, des joueurs complètement arrêtés, des joueurs passifs, des joueurs qui n'ont pas gagné les duels. Et comme ça, c'est impossible de gagner des matchs.
Du coup, maintenant, bah, c'était peut-être l'avant-dernier match aujourd'hui de la dernière chance. Mercredi, il y aura le match de la dernière chance pour essayer de rester au contact de ce top 6. Actuellement, maintenant, avec les autres résultats de la journée, Lausanne est à 5 points de Zurich. Lausanne va à Zurich mercredi. Là, il ne faut pas calculer. Il n'y a pas d'autre choix. On doit gagner.
Oui, on doit gagner. Lausanne se doit de montrer un autre visage. Pour moi, ils ont laissé passer la chance aujourd'hui. C'est mon avis. Je ne leur souhaite pas. J'espère qu'ils vont réussir à aller chercher ces 3 points à Zurich et puis à se donner encore toutes les chances possibles. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une déception d'avoir vu un Lausanne dans cet état-là, avec un manque d'idées, un manque de tout. Et j'ai peur que ça soit maintenant un petit peu trop tard du côté de Zurich.
Ben écoute, on verra tout ça mercredi. En tous les cas, merci Kevin d'avoir été avec nous, avec Alain au commentaire, avec moi au bord du terrain pour analyser ce qui s'est passé ici à la Tuilière. On le rappelle, défaite large de Lausanne face à Lucerne, 4-1.
On a eu l'avis de Kevin Fickenscher sur le top 6. Pour lui, le LS ne terminera pas dans les 6 premiers. C'était l'objectif du club vaudois. Je vous demande votre avis, les gars. On commence par toi, Thibert. Est-ce que c'est trop tard ?
Non, c'est pas trop tard. Je leur laisse encore la possibilité à Zurich. Je pense qu'ils peuvent vraiment aller faire quelque chose à Zurich avec certainement beaucoup de changements. Ludo Magnin qui va les remobiliser, comme il sait très bien le faire. On sait que c'est une de ses grandes qualités de les emmener avec eux sur un déplacement commando. Voilà, là, il n'y a plus le choix. Et je les crois capables de faire un petit exploit à Zurich.
Alors moi, tout le contraire. Quand je vois un match aujourd'hui de Lausanne, moi, je ne vois pas du tout aller chercher la victoire à Zurich, surtout que Zurich est en pleine forme. Moi, je pense que le haut du tableau, il ne va pas bouger. Et puis, ça va rester comme ça. Je vois mal aller Lausanne aller gagner à Zurich, surtout quand on voit un match... avec cette qualité d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis comme ça. Voilà.
On va garder quand même ces moments d'émission. Parce que Mathis nous a sorti le champion déjà. Il nous sort le top 6. Qui est barragiste et qui est relégué ? Vas-y, comme ça, on a la tête.
Bah, ils sont relégués, on sait déjà.
Et allez, le barragiste ?
Bah, le barragiste, c'est compliqué.
Mais non. C'est oui. Presque plus facile par rapport à tout ce que tu nous as sorti.
Écoute.
Getse, Yverdon, Sion.
Non, Yverdon va mieux. Moi, je vais les sauver.
Ouais.
Je dirais Getse.
Top 6, Vincent, Lausanne
Je suis un peu de l'avis de Kevin Fickenscher, en fait. Je trouve qu'ils laissent un peu passer leur chance aujourd'hui. Mais là où ils ont une chance, c'est d'aller à Zurich. Il te reste 4 matchs. Tu vas à Zurich, tu gagnes, tu es à 2 points. Ok, peut-être que... Alors, tu n'as plus tout à fait ton destin en main, mais peut-être que tu as une chance d'y aller. Là où je suis un peu d'accord avec Mathis, c'est que dans la mentalité aujourd'hui, il a manqué beaucoup trop. Quoi. Tu peux pas... comme ça lâcher un match. T'arrives dans un moment de la saison où t'as plus le droit de lâcher les matchs. Et c'est pas la première fois que Lausanne se fait prendre dans le dos en début de partie. Je veux dire, le but après 14 secondes d'IB, c'est à peu près le but qu'on voit aujourd'hui de Lucerne. Sauf que c'est après 37, enfin une trentaine de secondes plutôt que 14. Donc on revit des scénarios qu'on a déjà vécu. Et tu dois apprendre de tes erreurs. Quand après un match, un joueur, il vient à l'interview et dit « Ouais, mais on va apprendre de nos erreurs », bah apprenez de vos erreurs, les mecs, c'est pas normal que Lausanne se fasse encore battre dans le dos dans les 15 premières minutes d'un match.
Ouais.
Et qu'ils prennent 2 buts aussi bêtement et qu'après Duchesne, il fait une erreur comme ça. Avec l'expérience qu'il a, tu ne dois pas faire ça. Tu dois montrer du caractère sur ce terrain. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé à Lausanne aujourd'hui. Et je ne pense pas que c'est l'excuse du public ni de l'absence de Sanchez, de ce qu'a dit Kevin. Je trouve que tu peux pas avoir des excuses comme ça, tu dois apprendre de tes erreurs et en montrer beaucoup plus sur le terrain.
Merci Régis à la prod qui nous dit qu'il y a eu un sondage cette semaine. Vous êtes 70% pardon, hein, nos téléspectateurs et nos followers à penser que le LS ne terminera pas dans le top 6. C'est lié évidemment aussi la blessure d'Alvin Sanchez.
Ouais, mais non.
Mais exact. Ouais, non. Vas-y.
Non, mais rapidement. Ok, Sanchez, on a tous compris que c'est l'atout numéro 1 du LS cette saison. Maintenant, il est plus là. Bah, les autres doivent aussi prendre leurs responsabilités et montrer des choses. Je veux dire, arrêtez de se reposer sur l'absence d'un mec. Il n'est pas là. Bah, vous êtes sur le terrain, bah, montrez-nous des trucs.
Ouais, mais
Diabaté,
c'est,
montrez
mais c'est quand
des
même,
trucs.
Il manque un manque.
Ouais, tu peux leur dire, ils prennent leurs responsabilités, mais qui a le talent de Sanchez
mais
pour personne. Que décider d'un match, personne.
Mais met du caractère.
Ils ont prendre leurs responsabilités.
Bah, met du caractère, alors il n'y en a pas eu aujourd'hui.
Alors ça, oui, hein. Ça, je te rejoins.
Moi, je pense que si Ali Sanchez aujourd'hui sur le terrain, les matchs, il est différent. Moi, je pense ça.
Pourquoi?
Bah parce que lui, il amène toujours quelque chose. Et il fait peur aux adversaires. Donc, Lucerne, peut-être qu'ils vont jouer plus derrière, plus reculé. Lausanne, il y a plus de liberté.
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. La dernière fois que Lucerne est venu à Lausanne, si je ne me trompe pas, Mario Frick avait changé ou adapté son système à celui du LS, justement, parce qu'il y avait Alvin et tout ça. Mais
il y a beaucoup d'équipes qui ont des prises à deux sur
oui,
Sanchez.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord qu'à moitié avec toi, Mati. Parce que maintenant, sur les derniers matchs qu'on a vus avec Alvin Sanchez, les mecs ont compris. Oui, mais les gars ont compris. Les coachs ont compris comment il fonctionnait. Et il avait de la peine à sortir des cages qu'on lui avait.
Non, mais le dernier match à Saint-Gall, il fait quand même un super match. Ouais. Il gagne là à Saint-Gall.
Vas-y.
Je vais te dire un truc aussi quand t'es sur le terrain et que moi j'étais milieu de terrain quand j'avais mon numéro 10 qui était pas là inconsciemment c'est pas pareil quand tu as le mec tu sais tu lui donnes le ballon il va au moins te le garder ou peut-être créer quelque chose
quand t'as un joueur qui est en pleine confiance
vraiment c'est vraiment différent tu joues différent donc ça bonifie aussi les autres là les autres peut-être que
ouais mais est-ce qu'on parle encore de l'absence de Bernad non
ah,
ouais, genre ouais mais moins d'accord mais ouais mais moins. On a fini de dire Lausanne est Bernat dépendant parce que Coindredi a fait du bon boulot et Roach est très bon au milieu de terrain.
Ouais, moi, je trouve quand même pas Coindredi au niveau de Bernat.
Bernat manque énormément pour moi. Mais en fait, c'est marrant, Vincent, parce que moi, j'ai à peu près ton analyse. Là, on a les mecs qui ont joué au foot puis qui te disent effectivement, c'est pas pareil sans Alvin Sanchez. Puis moi, j'avais aussi un peu cette envie de voir ces mecs qui prennent leurs responsabilités en l'absence d'Alvin Sanchez. Tu dis, voilà, maintenant, les gars, c'est à vous. Je m'attendais peut-être un petit peu plus de la part des ailiers. Je m'attendais un petit peu plus aussi de la part d'Oviedo. Ça faisait tellement longtemps que je me réjouissais de le voir. Ok, mec, titulaire maintenant. Et puis en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était
aujourd'hui, ils sont tous passés à travers. Ouais. Donc ça peut arriver. Maintenant, on va voir la réaction.
Qu'est-ce que tu sauves là aujourd'hui du LS?
Moi, aujourd'hui, rien. Il n'y a rien. Mais vraiment rien. Parce qu'à la mi-temps, ok, il fait 4 changements. Moi, je les aurais fait avant. À la 30e, tu changes 4 joueurs pour leur montrer que tu n'es pas content, déjà. Et après, bah, je ne suis pas coach. Hein. Mais moi, en tout cas, de mon analyse, à la 30e, tu tapes sur la table, tu dis « je ne suis pas content ». Et il faut maintenant se boucher, parce que là, ça ne va pas. Et puis, en 12e mi-temps, il fait les 4 changements. Il y a un peu mieux, il y a un peu du mieux. Et il s'arrive à marquer un but. Mais il n'y avait pas de révolte, il n'y avait pas d'attitude. On dirait qu'il n'était pas concerné par le résultat, par le match. Et c'est ça qui, pour moi, ça a manqué énormément.
4 changements qu'il aurait fait à la demi-heure, Tibert aussi, si tu avais été coach. Évidemment, c'est
pourquoi
plus
pas,
facile
ouais.
Quand on est assis dans le canapé, oui. On rappelle, mais un petit peu à la Moniz ou à la Frick qu'il avait fait d'ailleurs.
Nous, on a eu aussi un entraîneur, Joao Alves, qui n'existait pas à l'époque à faire des changements très très vite, même quand il n'y avait pas 3-0 après 30 minutes. Hein. Mais ça, c'est aussi des philosophies d'entraîneur. Il y en a, moi j'avais lu Claude Puel, il se refuse de faire un changement avant la mi-temps parce qu'il dit que quelque part il trahit un peu son idée de départ. Donc il se refusait, quoi qu'il arrive, de faire. Donc ça, c'est aussi une philosophie globale de l'entraîneur. Moi j'aurais peut-être fait ouais mais après c'est aussi de l'impulsivité des fois hein. Et puis peut-être voilà
puis après tu sors lequel, tu détruis, tu le détruis.
Exactement.
Donc tu dois en sortir deux mais leur
Exactement.
Expliquer ouais c'est compliqué
bon là il aurait pu sortir tout le monde
ouais
bon. Il aurait pu sortir tout le monde
vous aviez je crois joué un match justement contre Lausanne où
oui.
Vous perdiez 3-0 c'était en,
ah oui,
en
oui.
Challenge
bah, c'était le premier derby du retour en Challenge League oui. Ouais. Ouais. Et on perdait 3-0 contre puis, Lausanne s'il y avait 5 c'était pareil
ouais.
Mais voilà tant mieux heureusement qu'ils ne sont pas marqués bah, 3-0 les gens ils partaient du stade et puis
il y avait eu un changement à la 30e
un changement et ouais. on arrive avant la mi-temps à marquer les 3-1 3-2 et là quand on est arrivé dans le vestiaire nous on savait
par
qu'on allait
gagner ce match. Il ne le dit pas mais c'est lui qui a mis le doublé hein.
Oui.
Il ne le dit pas, il est modeste, mais moi je le dis. Bah,
et puis Julian Esteban qui fait les passes. Et puis à la mi-temps, on est revenu à 3-2 et on savait qu'on allait gagner le match. Et on a gagné 4-3. Julian Esteban qui met le 3-3 et le 4-3 et on a gagné 4-3.
Mais regarde, un Julian Esteban, par exemple, t'es d'accord que quand on jouait, on avait plus de confiance.
Ah, mais oui.
Le mec était tellement au-dessus, à l'image d'un Avil Tchanchek, il était tellement au-dessus techniquement que tu avais plus de confiance quand tu jouais. Vraiment.
Ça libère une équipe. Là. Franchement, ça libère une équipe. Quand t'as un joueur qui est en forme et puis qui t'amène un plus, tu sais que c'est plus facile.
Mm-hmm. Bon, Alvin Sanchez qui s'est blessé avec l'équipe de Suisse, je vous propose d'en parler dans quelques instants parce que d'abord, on avait juste encore la réaction d'Olivier Custodio qui va confirmer un petit peu tout ce qu'on a dit. Mais c'est toujours très intéressant d'entendre la réaction du capitaine du Lausanne Sport.
Olivier Custodio, il y a parfois des matchs qu'on préfère oublier dans le foot. Celui d'aujourd'hui, il en fait partie?
Ouais, clairement. Clairement, je pense qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon dans tous les secteurs, c'est sûr. En deuxième mi-temps, voilà, il y a eu un peu de mieux, mais voilà, c'était toujours pas assez. Et voilà, c'est un match à oublier, il faut être prêt pour le match mercredi maintenant.
Alors, vous avez déjà posé cette question tout à l'heure à la pause, mais comment on explique ce blackout de la première mi-temps? Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui au début de match à Lausanne?
Tout, je pense qu'on n'a pas été bon. Tout simplement, on n'a pas été bon dans l'agressivité, on n'a pas été bon dans l'impact, on n'a pas été bon avec pas assez bon avec le ballon, on va dire. Et voilà, il nous a manqué beaucoup de choses aujourd'hui et Lucerne nous a punis sur pas grand chose, sur leurs premières occasions. Ils ont directement marqué et nous on a eu du mal à les bloquer derrière, on a eu du mal à être dangereux devant et voilà, on ne méritait pas la victoire aujourd'hui. Et comme j'ai dit avant, il faut oublier ce match, il faut bien se préparer pour mercredi et montrer une réaction.
Ouais, parce que mercredi, c'est à Zurich. C'est peut-être la dernière chance pour Lausanne d'accrocher ou de rester en course pour le top 6 parce qu'il y a 5 points d'écart avec Zurich qui est 6e. Lucerne est déjà parti plus haut. Là, il ne faudra pas se louper mercredi.
Ouais, c'est clair. Mais déjà, aujourd'hui, on ne voulait pas se louper. Voilà, après, tant que mathématiquement, ça sera possible, on ne lâchera pas et on continuera d'essayer d'aller gagner sur tous les terrains de Suisse.
Voilà pour la réaction d'Olivier Custodio. Il y a une réaction de Grégory Gouma sur notre page YouTube. Mathias, va planter le drapeau Grenat, s'il te plaît. Voilà, comme ça le message est passé. On a dit qu'on voulait juste parler un petit peu d'Alvin Sanchez, mais de cette Nati. On fait une toute petite parenthèse parce que, en fait, sans rien préparer, vous êtes tous venus me dire, les gars, voilà, ce match à Saint-Gall, quel dommage, ce Kibun Park seulement à moitié rempli contre le Luxembourg. Alors, pourtant, le Kibun Park, c'est presque le seul stade que tu pourrais presque remplir,
c'est
en
fou,
Suisse,
hein.
Mais ouais, entre l'adversaire, ouais, le prix des billets, la
l'enjeu,
défaite de Belfast, l'enjeu,
incroyable
tout
enjeu,
ça.
Ouais, non.
Dommage.
Non, moi je comprenais pas parce que voilà, j'ai joué à Saint-Gall et puis ce stade il est incroyable. Pour moi c'est une des meilleures ambiances de Suisse. Et puis tu vois les stades à moitié vides, franchement c'était vraiment triste. Mm.
Triste, effectivement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on enchaîne, Vincent.
Non, mais ces deux matchs, ils ont servi à rien et ils ne vont rien nous apprendre. Non, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, OK, peut-être qu'ils ont fait des tests. Mouratiakine, il a fait des tests. Il a sûrement appris des choses de ces deux parties. En tant que supporter ou suiveur de la Nati, ouais, ça n'avait pas grand intérêt, il faut être franc.
Ouais. Puis il y avait quand même...
La mauvaise information, la triste information, c'est que Sanchez s'est blessé. Puis c'est à peu près tout ce qu'on va retenir de ces matchs-là. Quoi.
Ouais. La Suisse, qui, on le rappelle, commencera sa campagne de qualification en septembre pour la Coupe du Monde. Deux matchs en septembre, deux matchs en octobre, deux matchs en novembre et c'est tout. Alors que plusieurs équipes sont déjà qualifiées pour le Mondial. Il y a la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Argentine notamment. L'Argentine qui vise d'ailleurs un doublé en Coupe du Monde. Dibu Martinez, t'es pas... ça t'énerve déjà.
Ouais,
ça l'énerve déjà.
Non, moi j'adore l'Argentine.
Mais c'est possible.
Ça, mais
c'est possible.
Tout est possible,
à ton avis,
bien sûr. Tout est possible.
Jamais.
Tout est possible.
Jamais, Vincent.
Après Messi, voilà. Messi, il va pas être comme à la dernière Coupe du Monde. Mm-hmm. Mais bon.
Toi, tu
crois? Moi, j'y crois.
J'ai assez envie de.
Tu vois, c'est le rival, Argentine-Uruguay.
Non, mais moi, j'étais pour l'Argentine. Quand il n'y avait plus la Suisse et l'Uruguay, moi je suis pour l'Argentine.
En attendant, l'Argentine, c'est déjà un doublé en Copa América.
Ouais. Moi, si l'Argentine gagne, je suis content.
Ouais,
ouais, je suis content.
Qu'est-ce que tu aimes bien parce que,
moi, je suis fan de Messi. Hein.
Fan de Messi, d'accord.
Bah, oui.
Pour Messi, tu es content. Mais comment est vue cette équipe d'Argentine en Uruguay? Parce qu'on sait que c'est une équipe. Voilà, c'est des mecs accrocheurs, c'est des mauvais perdants, tout ça.
Alors, nous en Uruguay, en fait, si tu veux, il y a le Rio de la Plata qui sépare l'Argentine d'Uruguay. Du coup, c'est le derby del Rio de la Plata. Nous, les... moi j'adore, parce que moi, mon grand-père polonais habitait à Buenos Aires. Du coup, moi, j'allais souvent à Buenos Aires pour le visiter et tout ça. Après, si tu veux, les Argentins de Buenos Aires, ils sont un peu l'image comme des Parisiens. Comme les Français des Parisiens, bah, en fait, les Argentins de Buenos Aires, c'est les mêmes. Tu vois, ils sont voilà, un peu arrogants et tout ça. C'est ça l'image qu'ils reconnaissent.
Ouais, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on nous dit, hein, un petit peu comme ça en Amérique du Sud de manière générale. Scaloni, quand même, à la tête de cette équipe qui était intérimaire à la base après l'élimination en 2018 en Russie par la France, là, dans le match incroyable en huitième de finale. Il fait Copa América, Coupe du Monde, et puis il est toujours là. Et puis,
incroyable.
Les gens n'étaient pas contents, les Argentins n'étaient pas contents qu'ils reprennent cette sélection-là. Et finalement,
c'est un dieu.
C'est quand même assez dingue. L'Argentine, tu as joué, hein, c'est ta sélection avec la Suisse. Tu as joué contre l'Argentine quelques minutes.
Ouais.
Comment tu t'en souviens de ce match?
Un rêve. Déjà l'appel, équipe suisse, une fierté énorme. Et puis en plus contre l'Argentine. Mais je me rappelle d'une anecdote. Lui, il ne se souvient pas.
Vas-y.
Mais on était au Brésil, à Rio, dans le taxi. Et puis il y avait Young Boys qui était intéressé par moi. Et puis j'ai dit à Tib, je vais signer à Young Boys. Et il y a un match avec l'équipe de Suisse contre l'Argentine. Et je vais jouer. Je vais être convoqué. Et lui m'avait dit, ouais, mais c'est bon, arrête. Parce que oui, déjà, il fallait que je signe à Young Boys, que je gagne ma place, que je joue, que je sois bon. Mais j'ai réussi à faire tout ça.
T'avais cet objectif-là.
Ouais, ça m'arrive souvent dans ma carrière de me mettre des objectifs et puis les faire. Voilà, malheureusement, je me suis mis que ça et puis.
Pas mis gagner la fin.
Incroyable, c'est quand même, tu parles du.
Non, mais...
Messi, c'est quand même ton goat, quoi. Ouais. Et puis, t'as quand même joué contre lui. Je crois qu'il a mis triplé, hein, c'est juste.
Triplé. La première fois qu'il met triplé avec l'Argentine.
Il fait un match de.
Bon, d'ailleurs, il faut savoir que je suis rentré les 5 dernières minutes. Il y avait un partout.
C'est pas moi qui l'ai dit, mais je le savais. Ouais. Je l'avais là.
Et là, on a Folter qui vous driblait Agüero et Ugaïn. Et puis, ciao, c'est fini. 2-1, 3-1.
Mais dans ce taxi au Brésil, t'aurais pas pu penser, genre, il y a aussi l'Euro, la.
Oui, j'étais pasito. après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après, il y a eu un changement des coachs à Young Boys. Voilà, un coach qui ne m'aimait pas trop. Mm. Et puis, du coup, l'autre sélection, c'était 6 mois plus tard. Et puis, du coup, avec ces nouveaux coachs, j'ai presque pas joué. Et voilà, du coup, ça a freiné tout ça.
Les croisés ?
Les croisés, c'était un peu plus tard.
C'était plus tard.
Un mot sur l'Uruguay qui a justement perdu contre l'Argentine et fait 0-0 contre la Bolivie de Boris Cespedes.
Alors franchement, j'espère que la FIFA va arrêter de faire jouer les joueurs à plus de 4000 mètres d'altitude.
C'est
impossible. Toi, t'es allé au Chili et
j'allais rebondir dessus. En fait, tu marches même un peu plus vite que normal, t'es déjà un petit peu essoufflé. C'est vraiment impressionnant.
Donc je pense que c'est pas possible. En plus, la Bolivie, ils profitent de ça parce qu'ils font jouer des joueurs qui jouent à Potosi, là-bas, à 4000 mètres d'altitude. Et du coup, ils bombardent. Mais les joueurs d'Uruguay, j'ai vu tout le match en plus.
Ouais.
À la mi-temps, il y a eu pas mal de changements. Et puis il y avait les bonbons de
Chichen. Jiménez, on l'avait. Mais Bobo Céspedes nous disait dans son interview, quand on est allé le voir à Yverdon, pour parler précisément de ça, de la sélection bolivienne, il nous disait en fait, le coach, comme tu le dis, il fait jouer les mecs qui sont des locaux, les mecs qui jouent là-bas. Les autres, ils jouent pratiquement jamais. Quoi.
Bien sûr.
C'est un vrai handicap.
Mais ça, franchement, il faudrait arrêter. C'est pas comme s'ils n'avaient pas des stades plus bas. C'est justement qu'ils font jouer là-haut, c'est impossible.
Pour avoir cet avantage. En tout cas, l'Argentine est déjà qualifiée. Il y a le Chili qui est dernier du classement. Le Chili, c'est le deuxième pays de Ricardo Rodriguez qu'on est allé voir à Séville. Petit extrait de cette interview que vous pourrez voir juste après cette émission en attendant le derby de Séville. Tout ça gratuitement sur Blue Zone.
Da ist halt andere Fußball, viel Eisengeist, ist offen Spiel, muss etwas machen selber. Und in Italien ist mehr so, hast du gewusst, du musst so, so und so. Und ich war mehr so dran gewöhnt. Aber am Schluss habe ich mich da gut eingelebt.
Voilà, oubliez pas, hein, c'est une interview exclusive que vous pouvez voir dans quelques minutes sur Blue Zoom. Y a quelqu'un, Maldinho, mon Dieu, le souvenir d'Affolter, quel mauvais souvenir. Si on se souvient, hein, les gens. Oui, je regarde un petit peu les commentaires pendant les petits trailers comme ça. Je crois qu'on passe à côté de rien du tout. C'est pas comme si la Bolivie est toujours qualifiée, non, mais il y avait eu... des choses très intéressantes, surtout dans les années 90-94. Là, je me souviens, 94, avec Echeverry. Je me souviens de ce joueur.
C'est celui-là qui tirait les coups francs.
Exact. Mathias, Tiber, annoncez le retour de Boris à Servette, s'il vous plaît.
Ça serait bien. Ça serait bien.
Je suis d'accord.
Ouais.
Bah, ça serait génial, ouais.
Bon, je pense qu'il pourrait faire du bien à Servette.
Ça ne va pas faire plaisir à Flavio Di Carlantonio qui veut qu'on parle d'Yverdon. Alors, on va parler d'Yverdon. C'était le but. Hein. On va parler de ce match nul entre Yverdon et Sion. C'était hier soir à Tourbillon. Je vous propose d'abord qu'on se refasse rapidement le film de cette rencontre. C'est avec Alain Rohrbach et Johan Lomfa dans les conditions du direct.
Kaman, Sandric demande le ballon rond. Il est servi, Sandric. Et c'est la barre transversale qui vient à la rescousse de Bernardoni. Tout a été fait dans le bon timing.
Il a préféré, il y a eu Bouriga, il y a eu Berdaïès. Oh là là, Fayoulou joue avec le feu. Il se fait subtiliser le ballon par Tazar, Marquezano. Et le but pour Yverdon sur cette énorme erreur de Fayoulou à la relance.
Allez, on va rester sur ces explications. Effectivement, compréhensible. Incroyable, incroyable. Et là, Fayoulou qui répond à tout le monde. Voilà, en plus, c'est pas très bien malin de sa part non plus. Hein.
Ça, exactement.
Vous l'avez pas vu à l'écran. Voilà. Ake qui se met sur le pied droit, Kongsgro, le centre de Kongsgro, et pénalty. Pénalty pour Yverdon, tacle à retardement, Marquezano face à Fayoulou. Et c'est au-dessus! Oh là là, l'homme en forme d'Yverdon, Marquezano, 31e, qui met ce pénalty au-dessus. Il a porté le danger sur la cage de Bernardoni, il est bien poté! Signé à Irizi.
Voilà, balle arrêtée quand oubli. On n'est pas bien dans le jeu.
Il y a eu un oubli hein, côté Yverdonois. Alors, Boris Cespedes semble être appelé à faire son apparition. Oh là là.
Bien joué ça.
Ake qui dévie au premier poteau. Intervention de Fayoulou.
Ouais,
et Komano. Komano face à Fayoulou. Komano, le crochet. Il attend du soutien à la frappe de Cespedes. Fayoulou, décisif une nouvelle fois. On va en rester là, Johan, sur ce score de parité. On se quitte en bons amis.
En bons amis.
Ouais, les deux équipes qui se sont quittées sur le score de 1 partout. On commence par parler d'abord du FC Sion, si vous le voulez bien. FC Sion, qu'on a eu vraiment de la peine à reconnaître, surtout en première période. Pas là dans l'impact, pas de rythme, difficile d'enchaîner les passes. Comment on explique ce genre de prestation là, ça me fait penser en fait au LS d'aujourd'hui quoi. Première mi-temps
pas aussi cata mais pas loin.
Mais absent. Non, mais absent.
Ouais, après tu joues contre un Yverdon qui est en pleine bourre actuellement, hein, faut pas l'oublier, deux victoires de suite, une Servette sur un très très grand match et c'était sur leur lancée. Après si on les a peut-être un petit peu plus craints qu'ils n'auraient dû et puis après oui, les conditions de match, bon. Quand tu sors de deux semaines, de toute façon, si tu n'es pas là dès la première minute, on se souvient, c'était vraiment très compliqué. Tu te mets en difficulté tout de suite. Et là, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui s'est passé. Et voilà, et ça aurait pu être pire hein, pour Sion. Ils s'en sont bien sortis avec 1-0 à la mi-temps et ils ont réussi à revenir au score. Tant mieux pour eux, mais c'est vrai que ça a été un match très compliqué.
C'était miraculeux.
Ouais, ils s'en sortent très bien avec ces matchs nuls parce que Marquezano, s'il met le pénalty 2-0, c'est fini. Ils sont la tête... C'est fini.
Plus l'occasion de Tazar. Enfin voilà, il y a une première mi-temps pleine de la part d'Yverdon et Sion qui était dans ses petits souliers.
Mais en fait, pour expliquer un peu les raisons, moi je prendrais ce qu'on disait en début de saison, à savoir, le FC Sion c'est serein. Il y a de la sérénité, ils sont sur la continuité, ça fonctionne bien avec Tolo, ça fonctionne bien, le groupe il fonctionne bien, ils n'ont pas fait de folie sur le mercato. C'est ce qu'on disait en début de saison. Puis là, c'est la bascule parce que vraiment hier, moi j'ai une équipe qui est nerveuse sur le terrain. Ils sont nerveux, mais minute 1. Je veux dire, Fayoulou, ce qu'il fait, ok, il fait l'erreur. Mais après, sa réaction aussi, de parler avec les supporters, il ne se fait pas tellement encourager par ses coéquipiers, ça monte dans les tours. Même le coach à l'interview, je le trouve ultra nerveux. J'ai le sentiment qu'il y a une nervosité qui grimpe, alors que il faudrait peut-être calmer les choses et se dire que ce FC Sion, avec la qualité de son effectif, est à sa place. Je veux dire, ils sont... pas barragiste, objectif atteint, pour le moment, hein. C'est l'objectif de fin de saison du FC Sion, j'espère. Mais ils savent qu'ils sont dans un moment très important de la saison, à savoir, ils jouaient Guetze avant la pause, Yverdon maintenant, et ils jouent Winterthur. Et ces trois matchs, je pense qu'ils sont notés sur le calendrier depuis longtemps, parce que tu dois enchaîner des points, prendre le maximum de points contre ces équipes-là. Alors ils font nul, et du coup ils restent à distance, mais... ils auraient bien voulu prendre un petit matelas sur ces formations, c'est pas le cas.
Ils ont déjà eu contre Guetze, ça passe pas loin hein, parce qu'ils sont sauvés plusieurs fois par leur montant. Ouais.
Hier, franchement, ils peuvent être contents du nul. Hein. Comme tu l'as dit, avec le pénalty raté de Marquezano, ils peuvent être très contents.
Et puis celle des Tazar, vraiment l'action des corners.
Après, tu as parlé de calme. Moi, je trouve quand même qu'il y a un vrai mieux dans la gestion des temps faibles de la saison. où à l'époque, tu avais peut-être des gens de la direction qui ruaient dans les brancards, où tu avais qui faisaient les gros titres avec des phrases un petit peu choc.
Ouais, je trouve que ce côté-là, il n'y a pas très longtemps, oui, Christian Constantin, mais, il a quand même dit quelques trucs.
Je te l'accorde, c'est vrai. Ouais.
Moins qu'avant.
Mais moins qu'à l'époque.
Il n'a pas changé d'entraîneur.
Quand même, voilà,
c'est un peu plus calme.
Il y a un petit peu plus de sérénité. Mais quand même. Et je trouve qu'on le ressent surtout dans les moments qui sont difficiles. Et ils sont tout de suite partis du mauvais pied. Souvenez-vous, le match contre Guetze à la maison où ils doivent gagner 1000 fois. Mm-hmm. Ils étaient à 11 contre.
C'est leur seule défaite, hein, d'ailleurs, à Tourbillon en 2025.
Ça a lancé très mal le deuxième.
Mais moi, j'ai vu des analogies, parce que j'étais à Tourbillon contre Guetze, là où justement ils jouent à 11 contre 10 pendant 86 minutes. Et hier, moi, j'ai vu des analogies. Une équipe nerveuse, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on entendra Didier Tolo, il l'a confirmé à l'interview. Une équipe qui se cherchait, en fait. T'as l'impression que c'est le premier match amical de la saison dans le comportement, tu vois. C'est, je dis pas comme une critique, mais je le dis dans les regards, dans les gestes. Ça avait l'air d'être une sorte de match amical du mois de juin, quoi, par
et
là.
Et si techniquement, t'es pas au-dessus, dans l'impact, tu dois y être. Ou au moins, tu dois être là dans les duels, quoi. Moi, vraiment, Sion, hier, dans les duels, ils se sont fait manger, en tout cas, pendant une mi-temps, voire une heure, quoi.
Mais ça me fait penser au match amical du Bouvray contre Stade Lyonnais. J'ai vu ce FC Sion-là. C'est une équipe qui avait de la peine dans l'impact. C'est une équipe qui s'est vraiment fait bouger. Alors, ils ont gagné 1-0, but de Kazami. Mais ils se sont fait bouger par Stade Lyonnais, justement, dans l'impact, quoi.
Ne pas sous-estimer la performance, encore une fois, d'Yverdon. Yverdon, ils ont vraiment des arguments, en tout cas au milieu de terrain.
On va en parler. On va parler d'Yverdon. Je vois que vous avez envie d'en parler, mais j'aimerais juste qu'on entende encore Didier Tolo, qui va confirmer à peu près tout ce qu'on a dit. Je lui ai demandé d'ailleurs hier soir, ma première question, c'était que j'avais pas trop aimé la première mi-temps du FC Sion. Ça, c'est sa réponse.
Non, moi non plus. Oui, on n'a pas, pas joué, on a été dépassé en première mi-temps. On a essayé de réagir en deuxième mi-temps. Ce but nous met aussi un coup sur la tronche. Parce que finalement, on ne débute pas trop mal. Mais après, voilà, il faut qu'on soit aussi capable de garder son calme, d'être beaucoup plus joueur. Voilà, on n'a pas. La première mi-temps, on était nul.
C'est intéressant ce que vous dites sur le calme. On a vraiment justement senti aucun calme auprès de vos joueurs. Très, très stressé. Comment vous l'expliquez?
Ouais, stressé parce qu'on donne le premier but et que voilà. Mais voilà, c'est pas aussi nouveau. Hein. Je veux dire, chaque fois qu'on prend le premier but, on est beaucoup plus en difficulté que quand on marque le premier. On a réagi en deuxième mi-temps. On a eu on a eu 20 minutes qui ont été bien en deuxième mi-temps. Donc on peut se sentir heureux avec un point ce soir.
Vous avez changé pas mal de choses justement au retour des vestiaires. Il y a eu des changements de joueurs, changements de système aussi. Et puis, nous, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que vous avez dit dans le vestiaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez dit à vos joueurs?
Parce que c'était un petit miracle qu'on soit mené 15-0 à la mi-temps et qu'on en pouvait revenir. Voilà, tout simplement, parce que s'il met le pénalty, c'est fini, le match est plié. Donc il fallait remettre de l'énergie. On a eu 25 minutes qui ont été intéressantes, mais ce n'est pas suffisant pour gagner un match.
Et voilà, on va parler un petit peu d'Yverdon, comme vous nous le demandez sur notre page YouTube. On va commencer par l'une des thématiques que vous abordez chez vous, c'est Paolo Tramezzani, ce retour en Suisse, cette première expérience de l'Italien à Yverdon, avec déjà un changement de système, sa patte, sa philosophie, différente de la philosophie qu'il avait proposée à Sion. Il joue désormais à 4 derrière, il va faire un pressing très haut, il nous l'avait dit d'ailleurs en arrivant, je suis revenu de Croatie avec des idées dans mon sac à dos, ce pressing, cette équipe offensive sans le ballon, moi, elle me plaît énormément et je voulais savoir si c'était aussi votre cas.
Il y a eu un début de ce mandat pour Tramezzani qui a été très, très, très compliqué. Il faut se souvenir qu'ils ont pris deux casquettes de suite, notamment une à Lausanne, où ils en ont pris quatre, où c'était justement où on parlait de Tramezzani comme étant un entraîneur hyper stable défensivement, où ça allait un petit peu stabiliser justement cette équipe. Et puis, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Après, il a eu le mérite de se remettre en question aussi. Il a fait des choix très forts que moi, je ne suis pas. L'éviction de Cespedes, pour X raisons, de l'extérieur, comment tu peux comprendre ça, que tu sortes ton meilleur joueur, meilleur buteur, incompréhensible, et pourtant, voilà, le foot fait que maintenant, il y a une équipe qui tourne très bien, une équipe qui physiquement a mangé Servette, a mangé Sion hier, une équipe qui vit, Et c'est vraiment pas ce qui est ressorti depuis le début, comme quoi la vérité d'un jour, c'est pas forcément celle du lendemain.
Alors, si je peux juste me permettre, il avait aussi dit dans cette interview, quand j'étais allé le voir, j'ai besoin de connaître, d'abord, j'ai des idées, mais j'ai besoin de connaître mon groupe et mes joueurs. Et c'est peut-être ça qui fait qu'effectivement, il y a eu les casquettes, il y a eu les performances un peu...
Les matchs, on tient le 0-0 en espérant un coup franc, un vieux corner, quelque chose, un miracle pour marquer le 1-0, et c'est complètement différent maintenant. Ouais. Mais le début de Tramezzani est compliqué.
Bah là, ils sont gagnés à Servette, chose très, très difficile. Et puis là, à Sion, franchement, s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est normal. Quoi. Mm-hmm.
Donc... Mais j'aime bien parce que vous avez souvent dit ça. C'est vrai que c'est miraculeux, Yverdon, première mi-temps et tout. Mais la deuxième mi-temps, fondamentalement, elle n'est pas ouf, non ?
Non, elle est moyenne. Mm-hmm. Non, mais pour les deux équipes, elle est moyenne.
Un peu des deux côtés. Ouais.
Vraiment, c'est un match qui aurait pu bien tourner au niveau spectacle avec le début, alors l'erreur de Fayoulou et tout ça, mais qui s'essouffle un peu. Et la deuxième mi-temps, elle est un peu... On laisse aller, quoi, remplissage.
J'ai l'impression que les mecs, ils sont cuits.
Ouais.
Les mecs d'Yverdon sont cuits parce que justement, il y a ce passage à 4 derrière, il y a cette volonté d'aller chercher, de presser. Il y a tellement de densité là au milieu. Enfin, les efforts que demande Tramezzani.
Rappelle-toi le jeu Singal-Peter Seidler où après une heure, il n'y avait plus rien parce que tout le monde était cuit.
Bon, là,
c'est pas encore ça.
Non, mais c'est vrai que
ça demande beaucoup d'énergie.
Ça demande beaucoup d'efforts. Quand on te demande d'aller presser, ça demande énormément d'efforts.
Quand il y a eu les changements, c'était pas non plus dingue, quoi. Il y a eu des changements. Il a essayé des trucs, il a fait sortir des joueurs, mais on a vu
c'est toujours compliqué de retrouver
fatigués.
L'influx du début de match, même en faisant 4 changements. Enfin, je veux dire, tu peux pas remettre tous les mecs à zéro et on repart à fond. Donc c'est assez logique. Après, moi, ce que j'aime bien avec cet Yverdon-là, et on n'en parle pas encore beaucoup, c'est le milieu de terrain, parce qu'on parle beaucoup de l'absence de Cespedes, mais faut être franc. Wegowski était suspendu hier, mais Wegowski, Baradji, c'est ultra costaud. Hein. Ouais. C'est des mecs,
c'est eux qui ont mangé.
Eux, ils grattent des ballons dans tous les sens. Hein. C'est des mangeurs de ballons, quoi.
Mais tout à fait d'accord.
Persiste à penser que Boris Cespedes avec Marquezano.
Ça, je veux savoir.
Boris Cespedes.
Vas-y, dis le milieu.
Moi, je le mettrais en sentinelle. Avec Wegowski, comment il s'appelle Baradji.
Ok.
Tazar. Libre les attaquants.
Tu renonces à
Silla Marquezano. À voir, ouais.
Non, mais c'est ça, c'est une vraie question.
Silla, il a été bon sur les derniers matchs.
Moi,
je jouerais comme je t'ai dit.
Toi, tu renonces à Silla.
Moi, j'aime bien l'idée de Tiber. Je suis son idée, ouais.
Vincent,
moi, désolé, je touche rien. Mais non, mais le problème, c'est que moi aussi, je trouve ça incompréhensible, Cespedes. Mais au final, quand t'as les résultats, pourquoi tu changes?
Là, sur les deux derniers matchs, qu'est-ce que
c'est? Désolé, ils vont faire un point à Sion, ils auraient pu en faire trois, ils auraient peut-être même dû les faire, mais dans l'ensemble, genre, les prestations de l'équipe sont bonnes. Le groupe a l'air d'accepter ce choix de mettre Boris à l'écart, ou en tout cas sur le banc, même s'il est rentré hier. Donc, il n'est pas non plus un banni, je veux dire, il a joué.
Il est rentré de voyage aussi, il est rentré.
Et il est rentré de Bolivie. Donc, peut-être que finalement, il va lui redonner un peu de confiance petit à petit et finalement, il va le refaire jouer.
Il a repris dans le groupe.
Il a repris dans le groupe et il l'a refait jouer. Donc peut-être c'est en train de s'apaiser, on ne sait pas, tu vois.
Moi, j'aime aussi... je trouve que Boris, c'est un joueur hyper élégant, hyper efficace. J'ai toujours dit en début de saison qu'il y avait un Yverdon avec et un Yverdon sans Boris Cespedes. Bah, à la suite, au prochain épisode. Bah, le mot de la fin, il sera pour toi, Mati, parce qu'on est déjà au bout de l'émission. Donc, je te laisse me donner le classement de la Super League. Puisque tu nous as déjà donné...
Il est fait, le classement. Il est fait.
Le top 6 ne bouge pas.
Ouais, alors... Attention, match primordial, mardi prochain, Servette Young Boys.
Tu y seras ?
J'y serai, ouais. J'espère qu'il y aura une place pour
Tibère
moi.
Tibère aussi, tu
au
y seras ?
Au commentaire, ouais.
Au commentaire.
Ouais. Ça, c'est...
Vincent, il...
Je suis en congé, désolé, il y a du hockey sur glace. je vais jeter un œil à ce match.
Très bien. Oui, et vous aussi, évidemment, jetez un œil à ce match-là. Il y a de la Super League cette semaine, évidemment, mardi, mercredi, jeudi sur Blue Sport. Et puis, n'oubliez pas, juste maintenant, juste après match, vous avez cette interview exclusive avec Ricardo Rodriguez, suivi du derby de Séville entre le Betis et le FC Séville. Très belle semaine à toutes et à tous. Ciao.